Bienvenue à nos auditeurs en ligne. On vous souhaite une bonne célébration avec l'équipe de Louange.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne année. On est heureux de pouvoir célébrer notre Dieu tous ensemble. C'est le premier dimanche de l'année. Et on va commencer avec un nouveau chant. Un chant qui s'appelle Praise Elevation Worship. Et je crois qu'il y a des ados qui étaient à Teen Street et qui connaissent très bien ce chant. Alors on compte sur les ados pour nous soutenir. Et c'est un chant qui parle de la louange. C'est un chant qui dit que quoi qu'il arrive, je bénirai l'Éternel. Quoi qu'il arrive, que j'aille bien ou que j'aille mal, je bénirai l'Éternel. C'est vraiment une résolution. Je pense que c'est une résolution qu'on peut tous prendre en tant qu'enfant de Dieu. De se dire que dans la montagne ou dans la vallée, je bénirai l'Éternel. Que je sois seul ou que je sois entouré, je bénirai l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas seulement celui qui donne un sens à notre vie, il est le sens de notre vie. Alors voilà, je vous propose de prendre ce chant avec nous qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Ok ? Alors je vous propose de vous lever. Parce que c'est un chant qui bouge, on va bouger, on va sauter, on va... Vous allez voir, ça va être chouette. Allez, on va taper dans les mains ensemble.
Je loue dans la montagne, je loue dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi. Je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Ma louange est la mer où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, avec foi je crierai paix.
Je peux me taire, mon Dieu est vivant.
tu es si bon de moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre.
Hey!
je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. C'est exactement l'attitude de cœur avec laquelle on va prendre la Sainte Cène ce matin. Quand l'apôtre Paul va dire, voici ce que Jésus a instauré au niveau de la Sainte Cène, il va dire, ceux qu'ils prennent d'une manière digne, ceux qu'ils prennent en se pensant digne, se trompent complètement d'attitude de cœur. Donc on va pas prendre la Sainte Cène et puis se dire, je suis disqualifié à cause de mon péché ou autre. Non, justement, ton péché fait en sorte que tu as besoin de la Sainte Cène. Tu as besoin de la Sainte Cène et c'est plus qu'un repas. Quand Jésus va l'instaurer, Jésus va dire, c'est un mémorial, c'est un souvenir qui doit rester. C'est pas juste on se partage le pain et il y a un côté où on partage ensemble et on se rappelle les choses ensemble, mais c'est un souvenir, c'est un mémorial. C'est le souvenir que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. C'est le souvenir que tu as besoin de Jésus. C'est le souvenir qu'à la croix, il a tout accompli. Et c'est le souvenir qu'il revient bientôt chercher son Église. Qu'on puisse alimenter juste notre cœur, notre esprit de ces souvenirs-là, de se dire, ok, en fait, la Sainte Cène nous rappelle le sens de tout ce qu'on fait à l'Église. On prêche la bonne nouvelle. On prêche que Jésus est mort. On prêche que la croix sauve des vies. Et on prêche qu'il fait toutes choses nouvelles. Et puis la Sainte Cène vient juste nous rappeler et nous humilier et juste se dire, waouh, je ne mérite rien. Peut-être cette semaine j'ai chuté, peut-être cette semaine ça s'est mal passé, peut-être je me suis énervé, peut-être que... Mais je vais me rappeler ce que Jésus a fait pour moi et qu'il a tout accompli. Je veux juste prier qu'on puisse avoir cette attitude de cœur pendant que les éléments vont passer dans les rangs. Seigneur, merci pour la Sainte Cène, merci pour ce mémorial, merci d'avoir instauré ce repas qui n'est pas juste du pain et du vin, mais qui est vraiment un souvenir, un mémorial de se rappeler la puissance de la mémoire de ce que tu as fait il y a 2000 ans et de ce que tu fais encore aujourd'hui. De se rappeler où on était avant, quand tu es venu nous chercher. De se rappeler toutes les blessures qu'on avait. De se rappeler à quel point on était loin de toi, à quel point on ne te cherchait pas, mais toi, tu nous cherchais. Et on veut prendre la Sainte Cène avec cette attitude de cœur, en se rappelant que tu as tout accompli. En se rappelant que notre salut est basé sur toi, est basé sur ta grâce. En se rappelant que même notre obéissance, même notre sanctification, c'est grâce à toi, c'est grâce à ta grâce. On va prendre ce vin et ce pain, on va prendre ce pain et ce vin, Seigneur, en se rappelant ça. Et on veut d'avance te remercier, d'avance te dire merci pour le grand sacrifice. Merci d'avoir donné ta vie. Merci pour ton sang qui a coulé. Et merci d'avoir dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et merci d'avoir tout accompli. Au nom de Jésus. Amen.
Tu m'as aimé.
Personne d'autre ne pouvait faire ce que tu as fait par amour pour nous. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Disons-lui combien il est merveilleux. Combien son amour est grand. Combien il est bon ce matin. Combien il reste fidèle. Malgré les épreuves, malgré la tempête, Seigneur, merci parce que tu es là. Parce que tu as tout porté à la croix pour chacun de nous, Seigneur.
devant lui prosterner, entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais. Tu es saint.
L'église de l'Épi chante pour ton Dieu ce matin, chante.
Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Puissance,
puissance, autorité, royaume, et dit
tout se soumet au nom de Jésus.
Ton nom est le plus grand.
Amen. Il y en a qui sont reconnaissants d'avoir un Dieu qui est saint, quand nous ne le sommes pas. Dieu est un Dieu parfait qui nous aime malgré nos imperfections. Bonjour à tous, bonne année à chacun. Pour ceux qu'on n'a pas vu au nom du conseil d'église, bonne année, meilleurs vœux à chacun. On est content de se réunir pour le premier dimanche de l'année. Est-ce que les fêtes se sont bien passées? Avec quelques petites chicanes, comme on dit en québécois des fois. En famille, ça arrive, mais on a passé du bon temps en fait. On est content. Content pour vous, plusieurs annonces ce matin, mais avant ça, on veut juste accueillir déjà bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier dimanche 2024, notamment bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour les premières fois. On est vraiment content de vous accueillir, c'est une église qui est assez grande, on est à peu près 500 personnes, peut-être vous êtes un petit peu perdus, mais rassurez-vous, l'épice c'est plus que le dimanche, il y a des petits groupes aussi, il y a des groupes de vie, il y a des groupes en fonction de l'âge, en fonction des centres d'intérêt, et pour plus d'infos, je vous invite juste à aller au point d'accueil, il y a toutes les infos, il y a quelqu'un qui va répondre à vos questions avec un grand sourire, super gentil, et vous aurez toutes les infos de quelles ressources peuvent répondre à un besoin que vous avez en ce moment. Quelles ressources en fonction de votre âge, vos intérêts, ou même en fonction de vos défis que vous avez en ce moment. On a des groupes pour toutes les personnes. Il y a un groupe qui peut te convenir. Donc, je t'encourage juste à aller au point d'accueil. Tu auras toutes les infos par rapport à ça. Plusieurs annonces. C'est le premier dimanche. On repart sur les chapeaux de roue à l'épi. On est une église qui vit, puis on aime ça. Premièrement, on aura l'honneur le samedi 3 février. Pardon, j'ai avalé de travers une petite salive. On aura l'honneur d'avoir Ben Giraud. Ben Giraud qui sera là le samedi 3 février pour un événement pour les 15 ans et plus, pour les lycéens et jeunes adultes, donc 15-30 à peu près, soirée spéciale le samedi 3 février. Et c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un privilège. Pourquoi? Parce que lui, sa passion, c'est justement toi. Si t'es entre 15 et 30 ans, sa passion, c'est toi. Il aime la jeunesse, il est pasteur jeunesse à l'église Momentum, une église qu'on aime beaucoup aussi. Plusieurs pasteurs sont déjà venus ici, notamment Patrice Martorano et d'autres. Donc c'est vraiment une église avec un lien de cœur. Et on aura le privilège de l'avoir le samedi 3 février en soirée. Donc l'horaire va arriver prochainement, mais mets ça à ton agenda. Si tu as entre 15 et 30 ans, mets ça à ton agenda. C'est une soirée à ne pas manquer, puis invite des amis. Invite des amis. Il a même écrit un livre sur les relations justement pour les jeunes. Donc n'hésite pas, viens, ça va être une soirée bénie, j'en suis sûr. Et on aura l'honneur de l'avoir pour le dimanche aussi, le 4 février, où il y aura un service de baptême. Et en parlant de baptême, déjà, qui sont heureux d'avoir une église avec plusieurs services de baptême dans l'année? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu pour ça qu'on fait ce qu'on fait? Non? Voir des gens témoigner comment Jésus a transformé leur vie. Donc le dimanche 4 février, service de baptême. Et pour ceux, peut-être, pour qui c'est la prochaine étape, peut-être tu veux te faire baptiser, peut-être ça fait quelques mois, quelques années, maintenant tu suis Jésus et tu dis, c'est la prochaine étape pour moi, c'est le baptême. Le mercredi 7 février, il y a la formation baptême qui débute pour un service de baptême fin juin. Donc on a tout 3-4 mois de formation, un parcours vraiment où tu es avec un petit groupe et puis il y a des gens qui sont là pour partager un petit peu sur la Bible, sur c'est quoi le baptême, c'est quoi la vie disciple, c'est quoi la vie spirituelle, et c'est vraiment un parcours enrichissant. Tous ceux qui l'ont fait ont été bénis et sont contents de l'avoir fait. Donc si ça t'intéresse, va au point d'accueil. Tu as une fiche à remplir, tu t'inscris, on te contacte, on te rencontre pour apprendre à te connaître et t'expliquer comment ça va se passer. Et ensuite, le mercredi 7 février, tu commences ton parcours. C'est bon pour vous? Yes, prochaine annonce. Repas fraternel. On a plusieurs groupes de vie, comme j'ai dit au début, à l'EPI, des grands groupes, des petits groupes. Et le repas fraternel, ça fait maintenant quelques mois qu'on fait ça. L'idée, c'est tu invites des gens chez toi et ensuite, c'est les gens qui t'invitent chez eux. Qui aime manger avec de bonnes compagnies? Moi, j'aime ça. La culture française, on aime ça, manger et puis avoir des bonnes discussions. Ce groupe repas fraternel, c'est aussi pour ça. C'est pour rencontrer des gens. C'est organisé d'une manière où justement, t'as rien à faire. Tu vas t'inscrire et ensuite t'invites chez toi, tu reçois et ensuite tu vas chez les gens, t'apprends à connaître, tu passes du bon temps et tu t'encourages mutuellement dans la foi. Donc c'est vraiment un principe qu'on aime et qu'on veut encourager nous à l'église parce qu'on aime la communion, on aime la koinonia. Je pense que c'est un mot que vous avez entendu plusieurs fois cette année parce qu'on croit vraiment que c'est ce que Jésus veut pour l'église aussi. Donc pour toute information, pour toute inscription, le point accueil est date limite le 15 janvier. Donc en gros, si tu doutes à t'inscrire maintenant, ben vas-y à la fin de la réunion, sinon tu vas oublier la semaine prochaine. Ok? Va t'inscrire, ça va être bénéfique pour ta foi. Du 14 au 21 janvier, il y a la semaine, alors c'est la semaine universelle de prière organisée par le CNEF. C'est partout en France et c'est dans différents lieux, notamment dans l'Eurométropole. Donc c'est une semaine avec la thématique qui s'intitule poursuivrons la mission ensemble. Merci Michel. Et j'ai pas réussi à relire ma note, c'est incroyable. J'écris comme un médecin. Poursuivons la mission ensemble du 14 au 21. Il y a plusieurs lieux à l'Eurométropole et les lieux sont affichés au point d'accueil. Il y a des petits flyers qu'on a imprimés et s'il y en a plus, demandez au point d'accueil. Ils ont une feuille avec toutes les informations dessus. Donc si ça vous dit d'aller prier, poursuivons la mission ensemble, allez-y. Il y a vraiment à chaque soir de la semaine, il y a une soirée de prière. Donc n'hésitez pas à y aller. La prière fait une différence, vous y croyez ? Amen. Ben, je vais inviter maintenant Marie Tsanga à bien vouloir venir pour une annonce pour les maraudes. Marie qui arrive là-bas, super, les maraudes qui sont un des bras d'enjeu de notre association culturelle qui vient en aide aux plus démunis et puis à toutes sortes de besoins. Donc je laisse la place à Marie pour la présentation.
Merci Jérôme. Bonjour à tous et je me joins à toute l'équipe pour dire bonne année. Voilà, vous savez que dans l'église on a une action maraude. Et ça fait la quatrième année là, qu'on rentre dans notre fonctionnement. Et tous les ans, on organise un goûter. Et dans ce, quand on fait ce goûter, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on offre un cadeau à nos convives. C'est nos semblables qu'on va chercher dans la rue. Et on aura le privilège cette année de travailler avec l'église Saint-Nicolas qui va nous accueillir et qui nous offre ses locaux. C'est génial parce qu'il faut être dans le centre-ville pour aller prendre les uns et les autres. Et vous savez, la première fois, on a fait des cartes d'invitation, on les a données avant. 2-3 semaines avant, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de comprendre comment nos semblables de la rue fonctionnent. Et Klaus nous a accompagnés en formation pour comprendre qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Et quand on donne on va donc aller les chercher le jour même. Et c'est ce qu'on fait depuis, on va les chercher et on les ramène. Et donc, pour ce cadeau qu'on va leur offrir, on s'est dit cette année, ce qu'on veut leur donner, c'est des choses utiles. Parce qu'on va dans la rue et on collecte leurs besoins et on sait maintenant ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à vous pour deux choses. La première chose, c'est pour contribuer avec nous à faire ce cadeau. Et dans ce cadeau, on mettra quatre choses. Est-ce qu'on peut remettre d'abord le premier Voilà, très bien. Nous ferons une collecte d'accessoires divers. Et dans ces accessoires, ce qu'on nous demandons, aux uns et aux autres, c'est de nous ramener quatre choses. Quatre choses. Un bonnet chaud, des gants, une écharpe et des chaussettes. Alors, en priorité, parce que les chaussettes, on peut les acheter par lot, en priorité, le bonnet, les écharpes et le gant. Et nous complétons cette collecte d'accessoires avec un thermos isotherme et des couvertures de survie que nous finançons avec le budget que l'Église nous a donné cette année. Et merci à l'Église pour ce budget qui nous a été donné. Le deuxième point pour lequel nous vous sollicitons, c'est simplement parce que quand on fait nos sorties, on a besoin de personnes qui contribuent dans la prière et qui nous soutiennent le jour de nos sorties. C'est ce qu'on fait. Il y a des gens qui le font, mais on n'est pas suffisant pour nous soutenir. Et donc, nous avons besoin de personnes qui se sentent concernées le jour de nos sorties et qui vont contribuer à ce temps en priant. Alors, évidemment, on ne va pas vous demander de prier pendant toute la durée de notre sortie, mais par exemple, de prendre 30 minutes, prendre une heure de temps et de vous dire que pendant ce temps-là, pendant que nous serons sur le terrain, à donner, à prier avec les uns. Tout à l'heure, on a parlé des baptêmes. On espère qu'un jour, on aura des baptêmes aussi de personnes qui sont dans la rue, qui viendront dans l'église et qui donneront leur vie à Jésus. Et donc, pendant qu'on est là-bas, on a besoin de personnes qui nous soutiennent. On se tiendra tout à l'heure à la sortie. On a un petit stand. On vous donnera nos dates. On vous donnera aussi le flyer avec les actions. Et donc, dimanche prochain, on se mettra là-bas déjà pour collecter ce que les uns et les autres auront ramené. Et aujourd'hui, pour prendre votre nom et votre numéro de téléphone pour ceux qui se sentent de pouvoir nous soutenir pendant ces sorties. Je vous remercie et je nous souhaite à tous un bon culte.
Yes, merci Marie. Pour rappel, les maraudes, ça fait partie d'enjeux de l'association culturelle que l'EPI soutient avec plusieurs bénévoles. Il y a des dizaines de bénévoles qui sont impliqués à enjeux, notamment les colis alimentaires une fois ou deux semaines où on soutient plus de 100 bénéficiaires par mois. Donc on fait vraiment une réelle différence. On est les bras et les pieds de Jésus en action et l'amour en action pour les gens qui sont dans le besoin. Donc merci Marie, merci à tous les bénévoles de l'EPI qui sont impliqués dans ça. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Dernière annonce. Et une des plus importantes, parce que, allez, il faut être attentif, ok? Derrière là-bas, je sais pas si vous arrivez à lire d'ici, c'est marqué Restons à jour. Il y a un espace juste derrière, Xavier, tu peux lever la main. Voilà, Xavier, notre porte-parole de Restons à jour. Qu'est-ce que c'est? Une des choses les plus importantes pour nous, c'est de pouvoir rester en contact ensemble, c'est de pouvoir communiquer ensemble. Et forcément, si on n'a pas le bon numéro de téléphone, on ne peut pas vous appeler. Si on n'a pas la bonne adresse mail, on ne peut pas vous joindre. Donc l'idée là, c'est d'aller, il y a 800 feuilles à peu près, c'est les personnes qui viennent à l'EPI, et c'est tous les contacts, toutes les coordonnées des 800 personnes qui viennent à l'EPI. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir, mettre à jour la feuille s'il y a besoin de la mettre à jour. Et ensuite, nous, on fait le nécessaire pour que sur notre serveur, on ait les bons contacts, les bonnes coordonnées pour pouvoir vous envoyer les newsletters, pour pouvoir vous envoyer toutes les informations sur les différents événements ou pour vous contacter quand il y a besoin, quand on doit vous rencontrer ou autre. Donc à la fin, tous les dimanches du mois de janvier, à la fin de la réunion, les tables seront là avec les feuilles et on vous encourage à y aller. C'est classé par ordre alphabétique. On essaie de faire ça d'une manière professionnelle pour que ce soit le plus facile possible pour vous. Donc allez-y à la fin, chaque dimanche du mois de janvier. Regardez votre fiche. S'il y a rien à faire, vous allez tout à droite. C'est marqué, il y a un pigeonnier marqué « Non modifié ». Vous mettez votre feuille. Si vous avez changé des choses, il y a un autre pigeonnier, c'est marqué « Modifié ». C'est bon pour vous? Est-ce que ouais? Ok, super, je rappellerai à la fin, mais n'hésitez pas, à la fin de la réunion, mettez votre fiche à jour pour qu'on puisse rester en contact ensemble. Je vais inviter maintenant Anne. Alors, c'est Anne qui va apporter le premier message de l'année. On va juste prier pour elle, pour que Dieu vraiment la bénisse, que Dieu parle à travers elle. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Anne, on te prie juste que ces mots soient tes mots. Seigneur, que tu puisses nous parler à travers elle, tu puisses la fortifier, l'inspirer. Seigneur, viens vraiment la remplir de toi et viens nous aider à ouvrir notre cœur pour qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin pour cette nouvelle année, pour ce premier dimanche de l'année. Donc, viens nous parler, parle à travers Anne, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je vais vous dire bonne année. Hein, au cas où vous ne l'avez pas entendu, pas assez entendu, encore bonne année. Et j'avoue que c'est toujours délicat, chaque fois quand j'arrive au 31 et pour que passage 31 premier, dire ouais, bonne année, mais en fait j'ai aucun pouvoir, j'ai aucune maîtrise sur le temps, sur quoi que ce soit, mais je sais que je peux prier. Donc ça, je m'engage à prier pour vous, ça c'est une certitude, et à ce que Dieu soit toujours votre maître et votre guide. Et je sais que à chaque début d'année, il y a quelque chose qu'on fait, c'est on prend de bonnes résolutions. Oui, ça nous arrive de prendre de bonnes résolutions. Et on va vous passer une petite vidéo du top 10 des résolutions de 2024. Je vous laisse regarder.
Top 10 des résolutions pour l'année 2024. Et toi, quelles sont tes bonnes résolutions? 10. Voyager. 9. Perdre du poids. 8. Passer plus de temps avec ses proches. Apprendre une nouvelle compétence. 6. Arrêter de boire de l'alcool. 5. Dormir plus. 4. Manger plus équilibré. 3. Économiser de l'argent. 2. Arrêter de fumer. 1. Se mettre au sport.
J'entends, il y en a qui rigolent. 1. Se mettre au sport. C'est la number one du top 10 des résolutions de 2024. J'ai l'impression que c'est la number one de toutes les années, en fait. Il y en a qui disent, ouais, c'est vrai. Et il y a un sondage qui a été fait, du coup, par rapport aux résolutions de 2023, qui dit que 59% des personnes interrogées disent avoir fait et tenu une résolution sur toutes celles qu'ils avaient fait. Et la semaine dernière, Michel nous parlait de bien finir la course. Et pour ça, il a cité 3 aspects. Il y a l'humilité, il y a l'endurance et il y a l'abandon de soi. Et il y a une phrase qui a retenu toute mon attention. Il dit « Le but, ce n'est pas d'arriver le premier, car c'est une course d'endurance ». Et la vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Et un des synonymes de endurance, c'est persévérance. Persévérance. Perse et tu verras. Et le titre du message ce matin, c'est « Cours avec persévérance ». Et il y en a, ils sont en train de penser au fond de punaise. Anne, finir bien la course la semaine dernière, et là tu nous dis « Cours avec persévérance ». Je commence déjà à fatiguer. Moi, j'ai juste mis les baskets pour l'instant. Mais il est vrai que la vie, c'est une course. Et la vie chrétienne, c'est une course. Et c'est vrai qu'aussi que en début d'année, on se met toujours des bonnes résolutions. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à les tenir? Et l'objectif de la réflexion de ce matin, c'est d'explorer les moyens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir à courir avec persévérance. Et c'est à travers le texte de 1 Corinthiens 9, 25-27 que nous découvrirons que la course avec persévérance implique inévitablement la discipline. Aïe. La fixation d'un but clair et que l'espérance aussi d'une récompense future. La persévérance en lien avec la discipline. On lit dans 1 Corinthiens 9, verset 25 et le verset 27. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. C'est Paul qui parle. Et Paul utilise la métaphore de l'athlète pour illustrer la vie chrétienne. Et à l'époque de l'apôtre Paul, Michel en a parlé la semaine dernière, les athlètes de la Grèce antique, notamment ceux qui participaient aux Jeux Olympiques, il y en a bientôt en 2024, l'été 2024, bientôt on est déjà en 2024, je ne suis pas encore... Et donc là, à cette époque-là, il y avait les Jeux Olympiques aussi, et ceux qui voulaient y participer, ils étaient soumis à une discipline. Et cette discipline, elle était rigoureuse. Et c'était une discipline autant dans la formation physique, morale et mentale. Et bien sûr, les athlètes de cette époque, ils étaient waouh, admirés. Et il y en a plein qui voulaient y participer et y arriver. Et je vais vous partager quelques aspects de cette vie de discipline que ces athlètes avaient. En tout premier, c'est un entraînement physique intensif. Je pense que le mot intensif, il a toute sa valeur. C'est-à-dire qu'une partie de leur vie était vraiment consacrée et affectée à des exercices physiques, comme la course, comme le saut, comme la boxe, etc. Il y avait aussi des règles strictes de vie. Ils étaient souvent tenus de respecter un code moral. Ils avaient un modèle à montrer. Une réputation. Ils ne pouvaient pas avoir des comportements jugés inappropriés. Et la moralité était un aspect important de la vie des athlètes. Ils devaient incarner des valeurs telles que la loyauté, la modestie et la vertu. Il y avait bien évidemment un régime alimentaire. Eh oui, on n'oublie pas. Parce que s'ils mangeaient que des légumes, faire du sport et manger que des légumes, peut-être que ça peut marcher, j'ai pas essayé. Ça marche ? Mais il y avait un régime équilibré qui incluait des aliments riches en protéines et en glucides. Et il y avait aussi une adoration aux dieux. La religion, elle était étroitement liée aux compétitions sportives dans la Grèce antique. Et les athlètes pensaient que si justement ils apportaient leur offrande, si ils adoraient leur Dieu, ils allaient leur donner de suite le succès, la réussite. Et donc on peut voir que là, la discipline est complète. Elle prenait en compte le physique, le mental et le moral. Elle prenait l'entièreté de l'être humain. La discipline. La discipline est un terme qui désigne généralement l'ensemble des règles, des normes et des principes qui régissent le comportement d'un individu ou d'un groupe, dans le but d'assurer l'ordre, le contrôle et le respect des valeurs établies. Et ça peut concerner différents domaines, comme l'éducation, la formation, le travail ou même la vie quotidienne. Essayer à un enfant de ne pas lui donner une discipline et un cadre. J'ai pas d'enfants, mais j'ai gardé pas mal d'enfants. Et étymologiquement, c'est très intéressant, le mot discipline provient du latin disciplina, qui signifie enseignement, formation ou instruction. Il est lié à l'idée de transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs à travers des règles et des exercices structurés. Ce qui revient à dire qu'en exerçant une discipline, nous transmettons quelque chose. Nous transmettons quelque chose en ayant une discipline. Et j'en reparlerai encore un peu plus tard. Lorsque Paul utilise l'image des athlètes dans ses enseignements, il fait souvent référence à cette discipline. Si au cas où vous ne l'avez pas assez entendu, discipline, je crois qu'il va résonner dans votre tête en sortant. Mais c'est pour illustrer les principes de persévérance, d'effort soutenu, de consécration, d'implication que les chrétiens devraient appliquer à leur vie spirituelle. En fait, Paul, il attend de tout disciple, comme lui se l'est imposé à lui-même, à tout disciple de Jésus, de faire la même chose que les athlètes. Être discipliné. Se mettre un cadre, des règles de vie pour arriver au but. Et Paul est en train de nous dire là ce matin, mes frères, sœurs, tout comme l'athlète se discipline, soyons aussi disciplinés qu'un athlète. La course qui nous attend nécessite de faire preuve de discipline. Dans la Bible Vie Nouvelle, je vais vous lire la note par rapport à ce verset, un commentaire. Beaucoup de livres et d'orateurs parlent d'épanouissement, de conscience de soi et de satisfaction personnelle, mais très peu traitent de la discipline. Celle-ci commence par un examen honnête de nos forces et surtout de nos faiblesses. Elle implique la volonté de dire non quand tout, à l'intérieur de nous, crie « oui ». La discipline personnelle nous permet de dire non à des amis ou à des situations qui pourraient nous éloigner de Christ, à une vie sexuelle faite de liaisons sans engagement ou encore à la paresse pour dire « oui, je peux le faire » et « oui, je veux le faire ». C'est la course d'endurance où l'on apprend des attitudes qui ne sont pas naturelles et canalise des passions afin qu'elles servent le Seigneur. Avec l'aide de Dieu, nos faiblesses peuvent devenir des forces. La discipline. Et je me rappelle, pendant la période du confinement, où on était enfermé, on ne devait pas sortir, même pas pour faire du sport. Enfin, si à un moment donné, on pouvait en faire un petit peu. Et là, je me suis dit, oula, Anne, si tu ne te mets pas une discipline, si tu ne te mets pas un cadre, je sens que tu vas rester dans le lit, mais toute la journée. Allez, on met un réveil. Et puis on s'habille quand même, on reste pas en pyjama. Il y avait le télétravail quand même. Et franchement, je tire mon chapeau à tous ceux qui font du télétravail, à tous ceux qui font des cours à distance, parce que moi j'avoue que s'il faut pas que je me déplace ou quoi, j'ai du mal à me discipliner. Allez, on met aussi une application pour faire un peu plus d'exercice physique quand même. Je me suis mis une discipline, un cadre, des règles que je suis arrivée à respecter. Le fait d'avoir une discipline, eh ben, ça m'a permis d'avoir quand même un équilibre. Et je me suis rendu compte que cette discipline, elle me rend productive. Et cependant, quand je ne me mets pas de discipline, il y a la flemme qui arrive, qui me met au sol, la motivation qui part en courant, et je me retrouve KO au sol. C'est bon, c'est fini, échec et mat. Je ne peux plus rien faire. Et j'aime bien quand on travaille avec l'équipe pastorale, on se met des disciplines, on se met des règles. Et il y a une application aussi qui nous permet de mettre nos tâches à faire. Et Mathieu et Jérôme, ils aiment bien quand ils ont fini leurs tâches, ils montent le volume de leur ordinateur, ils font cling, cling, cling. Et ça apporte une satisfaction qu'ils sont contents. Mais c'est vrai, en mettant un cadre, une discipline, ça apporte une satisfaction. Et il y a un livre qui dit « Faire moins mieux ». Si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Il n'est pas très cher, c'est de Tim Shelley. Et il est vraiment très intéressant. « Faire moins mieux ». Oui, ça arrive. « Faire moins mieux », c'est pas mal. Et je sais que le mot « discipline » peut être à l'oreille, ça peut friser. Ça peut être associé à une routine, à un ennui. Alors que avoir une bonne discipline est bon pour la santé physique, mentale et morale. L'importance de la discipline. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi la discipline ? Pourquoi persévérer ? Et Paul nous conduit à la réponse en soulignant l'essentiel de fixer nos regards sur un but clair et défini. Tout comme un athlète se concentre sur la ligne d'arrivée. Fixer le but nous permet de persévérer. On lit dans 1 Corinthiens 9:26, c'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air, je ne me bats pas contre des fantômes. J'imagine qu'on se bat... Enfin bref. Je vais demander à Jérôme de venir, si tu veux bien prendre... Mathieu, tu sais que tu nous aimes. Alors, je vais demander à Jérôme, je vais faire quelque chose. Je vais juste poser le micro 2 secondes. J'ai piqué l'écharpe, merci beaucoup. Je vais te tenir, je vais te tenir le bras, viens. Attention, il y a des marches là. Il y a la marche, ouais, vas-y, voilà. Voilà. Il y en a une, voilà, il y en a une autre. Ok, moi j'ai raté les deux, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai pas les yeux bandés. Ok, Jérôme, tu te rappelles là où tu étais assis, c'est une rangée, ouais, il y a une rangée avec la sono derrière, d'accord ? À mon top départ, je vais te demander de courir le plus vite possible et de faire le tour de cette rangée. T'es prêt ?
Tu m'as pas dit top.
Ah pardon, top. Vous comprenez bien ce que le verset... Merci Jérôme, on peut l'applaudir. J'ai voulu simplement illustrer le verset que Paul y dit, que quand on a un but, quand on a la vision, on sait où on va. On sait où on veut aller, on sait là, je vais droit là-bas, je vais au point. Tout à l'heure, vous allez tous courir vers Restons à jour. Oui, j'y vais, je sais où c'est, parce que je vois, c'est marqué Restons à jour. Ok. Et le but des athlètes était de s'entraîner pour avoir la récompense. Et Paul nous demande de faire comme les athlètes, de courir vers le but. Il dira aussi aux Philippiens, Philippiens 3, 12 à 14, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Là, je ne vais pas refaire revenir Jérôme en lui demandant « Essaie de courir en regardant en arrière. Oh » Je suis en train de penser qu'en fait, quand j'étais au collège, on marchait avec mes amis de l'école et je marche et je leur parlais. Il y avait un poteau qui arrivait. Je ne l'ai pas vu. Ça fait mal. C'était rigolo, mais pas pour moi. Et Paul est en train de nous dire que le but absolu de sa vie capte toute son attention et exige une concentration totale. La pression des choses urgentes. Les opinions populaires bruyantes et les informations quotidiennes deviennent moins importantes par rapport à l'objectif, au but principal de la vie de Paul. Tout ce à quoi il pense, ressent et décide se focalise sur une seule chose. Sur une seule chose. Paul décrit sa recherche de cette unique chose en utilisant 2 idées simples. Laisser derrière lui ce qui est passé et diriger vers ce qui est devant. Courir vers le but. John Maxwell dit « La vision est le secret de la persévérance. Ceux qui voient un grand dessein dans leur vie sont capables de supporter les difficultés avec courage car ils ont une raison puissante pour laquelle ils poursuivent leur chemin. » Ils ont une raison puissante, quelque chose qui anime leur vie, qui anime leur quotidien. Vous savez, les enfants, quand ils ont une idée dans la tête, ouf, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'être enfant des fois pour avoir une idée dans la tête et pas la lâcher. Je veux acheter ça. Maman, s'il te plaît, achète-moi ça. Maman, ils y vont. Leur but, c'est que papa, maman achète. Ils lâchent rien. Du matin au soir, ils en parlent. Et là, il y a une expérience, c'est... Mon papa a été pompier volontaire. Et donc, il y a le bip qui sonne, il va sur une intervention. Et l'intervention, c'était un feu cette fois-ci. Donc, il prend ses collègues, ils vont sur l'intervention, il conduit le camion et tout ça. Donc, il les dépose, il se met à un endroit stratégique. Et donc là, le feu, il est pas loin de lui. Il y a le vent qui commence à se lever, si je me trompe pas. Le vent commence à se lever, du coup, ça agrémente les flammes. Les flammes commencent à s'approcher du camion. Et le chef de l'équipe, il vient voir mon père, il leur dit « Allez, c'est bon, il faut qu'on parte, on y va, lève-toi. » Mon père, il part pas. Son but, le point qu'il fixait, c'est qu'il ne devait pas bouger pour que ses collègues reviennent du feu. Et mon père n'a pas fait attention à l'ordre qui lui a été donné. Il a laissé. Il n'a pas fait attention aux flammes qui commençaient à entourer le camion. Il a laissé. Je ne sais même pas s'il a pensé qu'il avait une femme et des enfants à ce moment-là. Je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. Mais il a laissé tout ça. Parce que son but, c'était de rester là pour que ses collègues rentrent. Ses collègues sont arrivés, merci Seigneur. Et ils ont pu être sauvés. Parce que si mon père était parti, il n'y aurait eu plus personne. Fixer nos regards sur le but nous permet de persévérer dans notre course de vie chrétienne. Et ce but, Paul n'en parle pas explicitement dans les versets que je vous ai lus. C'est quand on lit les versets qui précèdent, dans 1 Corinthiens 9, 23, quand il dit que tout ce qu'il fait, c'est pour la cause de la bonne nouvelle. Paul, apôtre de Jésus-Christ, comme il aime bien le citer dans ses écrits, dans ses lettres, avait comme activité sportive la prédication de l'évangile. Oui, c'est une activité sportive. Ce qui l'animait, c'est de ressembler à Christ. C'est d'arriver au bout de sa vie en ayant fait ce pourquoi il était appelé. Un jour, sur la route de Damas, une lumière éblouit Paul. Dieu l'interpelle, Dieu l'appelle à servir pour qu'il soit le porte-parole de la grâce de Dieu. Pour dire ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Tout comme Paul, Dieu s'est révélé à ta vie. Dieu s'est révélé à ma vie. Tout comme Paul, Dieu t'a choisi. Dieu nous a choisi pour porter du fruit et pour que ce fruit perdure. Pour que tu commences la course et poursuives le but d'être disciple de Jésus-Christ. Pour qu'à ton tour, tu apportes la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent. Et souvent, on se pose la question, mais ça peut être une mère au foyer. Et franchement, chapeau, mesdames. Chapeau. Parce que vous avez un privilège. Bon, il y a les papas aussi, bien sûr, les parents. Vous avez un privilège, c'est de former des disciples. C'est ce que Dieu a mis dans votre cœur, de le transmettre. Ça peut être aussi un entrepreneur, un artiste, un politicien et bien d'autres. Nous sommes tous appelés à influencer notre génération par le témoignage de la bonne nouvelle. Dieu nous a sauvés au prix de son Fils à la croix, car nous étions tous pécheurs. Et si parfois on manque de but, manque de vision, il y a un livre que j'ai lu là pendant les vacances. Alors excusez-moi la prononciation, c'est soit Chasson, soit Chasson de Craig Rochelle. Je vais faire des cours d'hébreu, hein. Je vais me perfectionner, c'est un objectif de 2024 aussi. Et là, ma question ce matin, c'est ok, on fixe le but, mais à un moment donné, il y a peut-être des choses qui nous ont arrêtés dans la course. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans la course? Le manque de discipline? Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta course? Paul nous exhorte à fixer nos regards vers le but, être comme Jésus-Christ. D'être porteur de bonnes nouvelles, d'apporter la lumière dans ce monde des ténèbres. Cours avec persévérance, fixant le but qui amène à la récompense. la promesse d'une récompense. Et on lit dans encore 1 Corinthiens 9, 25. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Paul mentionne que les athlètes courent là pour une couronne qui va se flétrir. Et il y avait différentes couronnes, différents types de couronnes qui avaient une signification symbolique et culturelle propre qui était remise en fonction du type de compétition. Et Michel nous a parlé la semaine dernière d'une couronne de laurier. Je crois qu'il y en avait une d'olivier. Je crois que ça, c'est celle du sud. Les oliviers, il y en a plein le sud. Mais il y avait toutes sortes de couronnes, mais elles étaient faites avec du feuillage. Mais pourtant, elles avaient une grande valeur à celle à qui elles étaient attribuées. Elles donnaient une grande importance, une considération, un honneur prestigieux d'avoir cette couronne. Wow! J'ai gagné aux Jeux Olympiques, j'ai eu la couronne de laurier. Moi, j'ai envie de dire, prête-moi un peu de laurier pour que je mette dans ma recette, s'il te plaît. Mais non, là, c'était vraiment quelque chose de fort. Et le gagnant était souvent acclamé par ses concitoyens et célébré comme le héros local. Cette couronne était éphémère, mais ils étaient vraiment contents de l'avoir. Pour eux, c'était un honneur. Paul explique là que ces récompenses ne durent pas longtemps. Et même si elles sont impressionnantes, la célébrité et la gloire sur terre disparaissent avec le temps, faisant faner les couronnes et s'effacer la renommée. À l'inverse, là, Paul met en avant le désir chrétien d'une récompense encore plus précieuse. Le croyant qui est persévérant, qui va dans son parcours de foi, dans sa course de foi, ne cherche pas une récompense qui va disparaître, mais une récompense qui ne se gâtera jamais. Cette récompense, on a du mal à l'imaginer souvent. Cette récompense, elle est éternelle. Et elle est loin de tout ce que les richesses du monde peuvent nous apporter. Elle ne perd pas de valeur. Et elle est bien plus importante que toutes les récompenses. Et j'étais en train de réfléchir et de me dire, mais comment on peut arriver à vraiment réaliser l'ampleur, l'importance de cette récompense? Les étudiants, on a tous été un peu étudiants à un moment donné. Je sais qu'il y en a qui sont encore. Quand il y a les examens, on se met une discipline. Allez, on se réveille, il faut réviser ça, il faut faire cet exercice, il faut machin, ouais, on y va. Le jour de l'examen, on gratte tout ce qu'on peut, on met tout ce qu'on a appris et tout ça. Le jour des résultats, quand on voit son nom écrit, mais on saute de joie. Je me rappelle au bac. Pas la première fois, parce que la première fois, je l'ai raté. J'ai pas sauté de joie. Là. La deuxième fois, je sautais dans tous les sens. J'étais hyper contente. Les mamans, quand vous avez porté pendant 9 mois le bébé, avec tout ce qui engendre la grossesse et le moment de l'accouchement, les douleurs, le papa était là pour soutenir à côté. Impossible de faire quoi que ce soit. Mais quand le bébé sort, et souvent quand je demande aux mamans, mais elle dit « Ah non, mais c'est indescriptible. Cette joie, cet amour. » Mais c'est tellement ça, à côté de la récompense qu'on va avoir. Imaginez le bonheur d'un instant que ça apporte, alors que là, on le vivra éternellement. Et je vous avoue, quand j'ai préparé la prédication, je me suis posée 2 secondes et je me suis dit, mais Anne, est-ce que je suis autant enthousiaste que Paul d'avoir cette récompense? Alors oui, on aura des bénédictions terrestres, mais cette récompense-là, la vie éternelle, la couronne de vie, on l'aura pour l'éternité. On l'aura une fois qu'on sera plus sur la terre. Charles Swindoll a écrit dans son ouvrage « Le courageux apôtre de la grâce », donc Paul, « Le prisonnier aux mains liées marchait d'un pas raide, dépénaillé, portant les marques de son séjour en prison, mais ni honteux, ni avili. les soldats, au visage patibulaire qui, l'escorté, ne prenait pas garde au visage du prisonnier, sans quoi il aurait vu s'y dessiner un léger sourire. Il était en route vers son triomphe. C'était le glorieux jour où il recevrait sa récompense. Pour lui, vivre, c'était Christ, et la mort était un gain. Aucune hache sur son cou ne pourrait jamais spolier de la destinée triomphante. Au contraire, elle lui en livrerait l'accès. Oh ! En fait, Paul, là, il est dans le couloir de la mort, dans le couloir de son exécution. La Bible ne spécifie pas les circonstances exactes de la mort de Paul, mais la décapitation était la forme d'exécution réservée aux Romains. Et donc Paul était romain. Il devait savoir que c'était son moment. Et pour lui, il voit ça comme une délivrance. Le moment de la délivrance, c'est mon moment de récompense. Et au lieu d'avancer à reculant au moment où il allait à la décapitation, bon, il ne dit pas, mais je l'imagine. Tu vas où, Paul ? Je vais me faire décapiter. Parce que c'est ma récompense qui arrive. Dans le livre de C.S. Lewis, Le problème de la douleur, il écrit « Vous ne devez pas penser à la mort comme à quelque chose de triste. » C'est simplement une étape nécessaire sur le chemin de la vie éternelle. C'est juste une étape. Et c'est vrai qu'on a tendance à entendre la mort, c'est la fin, c'est fini, on est condamné, c'est terminé, hop, fini, next. Non, c'est juste une étape. Une étape pour avoir notre récompense. Et je me rappelle qu'il y a une sœur qui témoignait, elle accompagnait son mari jusqu'à son dernier souffle, elle était dans la chambre d'hôpital et elle témoigne, elle dit un moment, il y a une présence de Dieu qui vient là, qui envahit la chambre. Son mari a donné le dernier souffle et elle disait, mais Seigneur, prends-moi moi aussi. C'était pas son heure. Mais pour dire que c'était tellement bon. C'était tellement bon. Alors oui, Michel, la semaine dernière, il disait, il y en a, ils sont plus proches de cette étape que d'autres, mais ce n'est pas une question d'âge. C'est Dieu qui décide. Ne voyons pas la mort comme quelque chose de terrible. C'est vrai que c'est douloureux pour ceux qui restent, mais c'est une délivrance et un accès à la récompense, à notre récompense que l'on a grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je vais demander à l'équipe de louanges de monter si elle veut bien. Et ce matin, je voulais vraiment, comme Paul, je suis fascinée vraiment par cet homme, Paul, qui s'est discipliné. Parce que oui, il y a un verset qui dit « La chair est faible, l'esprit est bien disposé ». Il s'est discipliné. Il a discipliné son corps, sa vie. Parce que son objectif, son but, c'était de ressembler à Jésus-Christ. Son but, c'était d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'être cette lumière dans le monde de ténèbres. Il n'a rien lâché. Il s'est discipliné. Oui, la discipline est importante pour nous arriver à courir avec persévérance. Oui, fixer le but, c'est important. Mais pas n'importe quel but, ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à notre Sauveur et Seigneur. Et ne pas oublier que nous avons cette récompense qui nous est réservée, qui nous est offerte. Alors oui, ce matin, c'est vraiment dans comme je voudrais être Paul, je voudrais même être Jésus, vous dire, mais cours avec persévérance. Cours avec persévérance. Ne vous fatiguez pas, j'ai envie de dire, à regarder jusqu'au 31 décembre 2024. Chaque jour, chaque matin, ok, je me discipline aujourd'hui, j'y vais, je fais ça, ça, ça et ça. Mon but, ressembler à Jésus aujourd'hui. Quand je me lève, quand je suis à l'école, quand je suis avec mes enfants, quand je suis au travail, ressembler à Jésus-Christ. Parce que je sais qu'une récompense m'est destinée. Je sais qu'une récompense m'est réservée. Et ce matin, il y a trois aspects, peut-être que où je vais vraiment prier dans ce sens. la discipline. Et peut-être qu'on est honnête, et moi je vous dis, il y a des fois où la discipline, je l'ai pas. Je l'ai oublié dans un tiroir, ou je sais pas. Mais vraiment de dire, ouais, Dieu, je sais pas, j'ai pas de discipline en fait. Moi je vis au jour le jour, Mais Seigneur, viens. Viens m'aider. Viens me donner la volonté, le vouloir et le faire pour arriver à me discipliner. À regarder le but. Toi, Jésus-Christ, comme tu as été, je veux être. Ou peut-être que, bah oui, nous sommes disciplinés. Mais peut-être pas pour le même but. Disciplinés pour se donner une vie de succès, disciplinés pour peut-être gagner beaucoup d'argent, disciplinés pour... mais pas pour ressembler à Jésus-Christ. Alors, peut-être là aussi dire, bah Seigneur, je me suis détournée à un moment donné là, je sais pas ce que j'ai fait. Je veux revenir. Je veux revenir fixer ce but de te ressembler sur la terre, d'être cette lumière dans ce monde de ténèbres. Et un dernier aspect qui pendant des années m'a travaillé de fou, la peur de la mort. Parfois, on peut même repousser cette récompense en disant non, j'en veux pas parce que il faut passer par la mort. Et c'est une réalité. Je me rappelle des nuits. J'avais 10, 12 ans, je crois. Et j'allais vraiment, à chaque fois, à chaque nuit, au chevet de ma mère et je suppliais, maman, s'il te plaît, ne meurs pas, maman. Je faisais des cauchemars, ça me prenait la tête. Ça me rendait triste. Mais c'est la vie. C'est juste, en fait, la mort, comme Paul le fait avec Timothée, c'est un passage de relais. Ok, moi, j'ai fini ma course. Ok, mon temps, là, sur la terre, ma course est terminée. Je vais chercher ma récompense. Par contre, je te passe le relais. Et je priais vraiment pour ces trois aspects. Et puis un chant va être pris peut-être pour vraiment se remettre intérieur de nous pour dire, ben voilà Seigneur, il y a trois points qui ont été dits. La discipline, le but, la récompense. Qu'est-ce qu'il en est? Où j'en suis? Qu'est-ce que j'en fais? Seigneur, je viens devant toi vraiment humblement, mon Dieu. Et vraiment, je suis touchée. Je suis touchée par l'exemple de Paul. Seigneur, qui s'est donné, qui s'est discipliné, Père, parce qu'il voulait te ressembler, parce que, Seigneur, mon Dieu, il savait la valeur. Nos temps sont comptés sur la terre, Seigneur, mon Dieu, c'est bien, tout est éphémère. Mais tu as tellement plus à nous donner, ta présence, ta gloire éternelle. Mon Dieu, ce matin, je veux encore prier. Je veux venir, Seigneur, mon Dieu, au trône de la grâce et te dire, Père éternel, tu nous vois là ce matin. Peut-être que ce matin, on manque de discipline. Pour lire la Bible, pour prier, pour mener une vie comme il se doit. Alors donne-nous le vouloir et le faire, Père. Peut-être ce matin, Seigneur, on a manqué le but. On s'est détourné. Parce qu'on a été trop centré sur nous. C'est vrai que des fois, la tête dans le guidon, en passant les jours comme ça, Seigneur mon Dieu, on a oublié que le but, c'est de te ressembler, de porter la bonne nouvelle à ce monde. Aide-nous à fixer les regards sur toi, jour après jour. Et Père, je veux te prier vraiment de tout mon cœur. Seigneur, pour cette récompense que tu nous réserves, pour que toute peur de la mort soit chassée. Seigneur, mon Dieu, pour qu'on puisse réaliser qu'en fait, on va vers la vie qui est tellement mieux qu'ici, Seigneur. Alors Père, prends toute la place encore ce matin. Montre-nous, Seigneur, sur quel point il faut avancer. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
À chaque saison, à tout moment, tu es. Feel
Amen. Merci pour le message, Anne. Je pense qu'on a un défi devant nous, puis une application par rapport au message qui a été prêché. Je pense qu'on a chacun la responsabilité de mettre des choses en place maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus va nous aider. On fait pas ça tout seul. Le Saint-Esprit est là pour faire cette œuvre en nous, pour nous donner le vouloir et le faire, et pour nous aider à travailler à notre salut. C'est pas gagner notre salut, mais c'est le mettre en pratique. Merci Anne pour ça. Et juste un petit rappel, on a encore l'espace écoute et prière qui se trouve la zone du piano à queue. Donc si vous voulez qu'on prie pour vous, juste parler à quelqu'un, partager un défi ou autre, approchez-vous ici, il y a des gens qui vont être là, il y a des leaders de l'église qui vont être là pour vous écouter et pour prier pour vous. On aura juste à la zone ici de bien vouloir libérer l'espace pour garder une petite intimité par rapport aux gens qui vont demander la prière. Et juste un rappel, restons un jour par rapport aux fiches de contact à mettre à jour. J'ai oublié de le préciser, mais une des choses les plus importantes, c'est de cocher est-ce que vous voulez rester membre ou pas pour ceux qui le sont. Participant régulier, c'est quand ça fait plus de 3 mois que vous êtes là, et ceux qui sont membres, c'est ça se renouvelle en fait. Donc l'idée, c'est de mettre ça à jour pour qu'on soit à jour aussi au niveau des AG par rapport au vote qu'on a à faire à chaque année pendant les AG puis les AGE. Donc c'est vraiment important, cocher la case, vous voulez toujours être membre ou pas, ou si vous voulez le devenir aussi. Donc voilà. Il y a Xavier, il y a des leaders du CA qui vous attendent là-bas. Donc allez-y, par ordre alphabétique, mettez à jour vos fiches, c'est vraiment important pour nous. Et sur ce, on vous souhaite... Ah oui, 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 vous partez pas avec, vous la mettez dans les pigeonniers, comme j'ai dit, modifiée ou non modifiée. Et si vous trouvez pas votre fiche, il y a des petites fiches contacts, on va vous donner rendez-vous et puis on prendra vos contacts par la suite. Donc on se retrouve à l'espace Restons à jour. Bon dimanche à chacun.
On va prendre un dernier chant. Ça vous dit, on va prendre Béni une dernière fois ensemble. Allez, c'est parti.
Que tous ceux
qui respirent,
louent son nom,
louent son nom, et que tous ceux
qui respirent,
louent son nom,
louent son nom. Je loue dans la montagne, je loue dans la vallée, je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Ma louange est la mer où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, avec foi je crierai. Dieu règne, qu'il a vaincu la mort, qu'il est sans pareil. es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Bon dimanche à tout le monde.